Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. Entre la République islamique d'Iran et l'entreprise française Renault, c'est du sérieux. On voit les choses en grand et sur du long terme. Le constructeur automobile vient en effet de signer un accord de 660 millions d'euros d'investissement. Objectif à terme, produire plus de 300 000 véhicules par an dans le pays. Un accord commercial historique pour l'Iran qui redécouvre les joies de la mondialisation après de très longues années d'isolement économique et politique. Il y a tout juste 2 ans, l'accord sur le nucléaire signé entre la République islamique et les grandes puissances devait enfin permettre de résoudre la crise. Strict contrôle du programme nucléaire d'un côté, contre levée des sanctions de l'autre. Pourtant, bien que formellement signés, les accords ne sont pas immortels et reposent aussi sur la confiance que s'accordent les partenaires. Une confiance sérieusement mise en doute par la nouvelle administration Trump, qui accuse l'Iran de ne pas honorer sa partie du contrat et surtout de déstabiliser la région à travers le soutien à des groupes terroristes. Début août, le Congrès américain a d'ailleurs adopté de nouvelles sanctions. Une violation de l'accord a aussitôt dénoncé l'Iran, menaçant de renforcer son programme balistique. Alors le rapprochement historique n'aura-t-il été qu'une courte parenthèse, voire une illusion dans la longue histoire d'inimitié entre les deux pays. L'Iran et les États-Unis sont-ils redevenus les meilleurs ennemis ? Eh bien, c'est le débat que nous aurons ce soir et 3 invités pour en discuter. Annick Cizel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, spécialiste de politique étrangère des États-Unis. Et à vos côtés pour discuter, Thierry Coville, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes spécialiste de l'Iran. Vous avez notamment dirigé en avril dernier le numéro de la revue internationale des études du développement intitulé « L'économie politique de la République islamique d'Iran ». Et puis notre troisième invité est au téléphone, il s'agit de Amélie Myriam Chély. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, membre associé au Centre d'analyse et d'intervention sociologique rattaché à l'EHESS et vous êtes auteur de « Iran, autopsie d'un schisme politique » paru aux éditions du CERF en 2017. Alors Annick Cizel, question peut-être naïve pour commencer, mais comment on explique que les États-Unis aient pu récemment, donc tout début août, voter de nouvelles sanctions contre l'Iran alors qu'on est dans le cadre d'un accord qui a été signé il y a 2 ans sur le nucléaire, qui prévoyait plutôt une désescalade et plutôt une levée progressive des sanctions?
Je crois pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que les républicains au Congrès sous Obama, qui avaient déjà une majorité au Congrès, ont été extrêmement réticents, et le mot est faible, à ratifier finalement cet accord. Il y a eu des menaces qui allaient jusqu'à des menaces de guerre des États-Unis, d'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran entre 2010 et 2015, absolument non-stop. Et clairement, pendant toute la campagne de 2016, on a entendu les différents candidats, d'ailleurs pas simplement Donald Trump, remettre en question cet accord et expliquer que les États-Unis pouvaient se retirer unilatéralement de l'accord. Alors, bien évidemment, l'Union européenne répond immédiatement que cet accord est multilatéral, a été signé par les 5 membres permanents, également donc du Conseil de sécurité de l'ONU, également donc la Russie, la Chine, la France et l'Union européenne derrière la France plus l'Allemagne, et que cet accord continuera à vivre indépendamment des États-Unis. Mais on est à la fois dans une tentative de remplir peut-être une promesse de campagne, également de diaboliser l'Iran qui est perçu par l'administration Trump et par le Congrès républicain actuellement comme un soutien à des organisations terroristes, pas nécessairement l'État islamique, mais le Hezbollah, le Hamas. Et de ce fait, l'Iran fait partie de la liste des États stigmatisé par le décret anti-migratoire du président Trump, qui a ciblé 6 pays musulmans dont il interdit aux ressortissants l'entrée sur le sol américain actuellement. 5 de ces pays sont des pays actuellement en guerre civile, en conflit pour différentes raisons, des pays faillis comme la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Et puis l'Iran, qui semble être le bouc émissaire, vraiment, ce ciment de la politique étrangère du Parti républicain, ce bouc émissaire qui rallie les voix à la fois populaires et les votes du Parti républicain contre lui.
On va essayer de comprendre justement pourquoi l'Iran fait figure de bouc émissaire et ce depuis de nombreuses années aux États-Unis. Encore un instant sur ces sanctions donc, qui viennent d'être votées, il y a pas forcément contradiction, Thierry Coville, entre donc ce nouveau train de sanctions et l'accord sur le nucléaire qui lui prévoyait plutôt la levée des sanctions.
Oui, l'administration américaine s'en sort en disant que ces sanctions ne sont pas liées au dossier nucléaire, donc sont liées effectivement à la poursuite du programme de missiles iranien, au fait que l'Iran soutient effectivement ce qu'ils appellent des organisations terroristes. Et que l'Iran est déstabilisateur, ils disent le plus grand déstabilisateur dans la région, au Yémen, en Irak et en Syrie. Donc, et le non-respect des droits de l'homme en Iran. Donc ils disent que ce n'est pas lié au nucléaire. Donc on va dire c'est légal, mais le problème qui se pose, comme vous l'avez bien rappelé, la réaction iranienne le montre bien, c'est que l'accord sur le nucléaire repose sur un principe simple. L'Iran a accepté, et ils le font, c'est admis par l'Agence internationale de l'énergie atomique, de réduire considérablement son programme d'enrichissement d'uranium à un niveau civil, et ils le font, en échange d'une levée des sanctions. Donc ce qui a été dit dans la déclaration officielle iranienne, et c'est pas, les Iraniens ont raison, c'est de dire, écoutez, est-ce que ça ne respecte pas, même, alors on va dire l'esprit de l'accord, mais ça respecte pas l'accord, d'ajouter des sanctions. Et là, c'est qu'on voit d'ailleurs, je pense, c'est tellement gros que c'est quasiment explicite du côté américain. Et ça a été dit, je crois, par des responsables, je parle sous contrôle des spécialistes de l'administration américaine. L'idée, c'est de pousser l'Iran à la faute. C'est que, on rajoute sans arrêt des sanctions, parce qu'à mon avis, ils vont continuer. On rajoute sans arrêt des sanctions, jusqu'à ce que les durs, notamment en Iran, commencent à mettre la pression, ça fait des moments, sur Rani. On vous l'avait bien dit, votre politique du sourire, ça marche pas. Regardez, les Américains ne respectent plus, ils ajoutent sans arrêt des sanctions. Donc l'idée des Américains, c'est qu'à un moment, en Iran, on dise, écoutez, ça sert à rien d'avoir fait cet accord. Finalement, on est perdant, donc finalement, on sort de l'accord l'accord sur le nucléaire. Et donc, c'est une manière de pousser les Iraniens à la faute. Et il y a une deuxième méthode qui a même été dit clairement par les Américains, qui est de dire, on va demander à l'Agence internationale de l'énergie atomique de contrôler les sites nucléaires militaires iraniens. Les Iraniens vont refuser. Et donc, dans ce cas-là, on pourra dire que l'Iran ne respecte pas l'accord sur le nucléaire. Donc, on voit très bien, je pense que l'idée, c'est effectivement de peser sur l'économie iranienne. L'idée, c'est de freiner l'ouverture économique de l'Iran sur l'Europe. Et l'idée, c'est à terme, éventuellement, de faire capoter cet accord, mais sans que ce soit la faute des États-Unis.
Myriam Amelicheli, est-ce que vous partagez cette idée que l'action américaine, il faut lire l'action américaine actuelle, comme le dit Thierry Coville, comme une stratégie pour pousser les Iraniens à la faute, faire capoter l'accord, quel regard vous portez sur tout d'un coup cette urgence américaine à sanctionner à nouveau l'Iran ?
Alors je suis tout à fait d'accord et il y a effectivement un événement qui peut donner encore plus de crédit à cette hypothèse. C'est juste après les attentats qui ont eu lieu sur le sol iranien au Parlement et au mausolée d'Imam Khomeini.
C'était au printemps dernier, attentats revendiqués par l'État islamique.
Les attentats revendiqués par l'État islamique, l'Iran a voulu en fait tendre un piège pour révéler visiblement la mauvaise foi de l'administration Trump le 18 juin. C'est-à-dire qu'en réponse aux attentats, l'Iran a envoyé 6 missiles sur des bases de construction de matériel de guerre de Daesh sur Daesh Resort. Et cette réponse étant à la fois proportionnelle à l'attaque et faite dans une logique défensive, une condamnation américaine de la manœuvre devait être difficile à justifier. Et si elle devenait effective, comme c'est le cas aujourd'hui, elle ne pouvait être entendue autrement que comme une volonté affichée des États-Unis d'affaiblir l'Iran pour affaiblir l'Iran. Ça, c'est clairement quelque chose qui, dès la prise d'initiative d'envoyer des missiles de la part de l'Iran, a été la raison numéro un, en fait, si vous voulez, sur le territoire. La première des raisons de l'envoi de ces missiles, c'était d'abord montrer à la population, la rassurer qu'on était capable de se défendre face à des attaques sur le territoire. Mais la deuxième, c'était avant tout celle-là, c'est-à-dire montrer que les États-Unis refusent même que l'Iran puisse se défendre.
Annick Cizel, du côté des États-Unis, est-ce que ces sanctions sont, à votre avis, le prémisse peut-être d'un retrait, au moins d'un retrait unilatéral des États-Unis de l'accord sur le nucléaire ? Est-ce que ça vous paraît probable ?
Alors, le président des États-Unis a pour mission, en fait, de prolonger la ratification ou de la stopper, en tout cas vis-à-vis des sanctions, tous les 6 mois. Et la prochaine échéance est au mois d'octobre.
Donc ça, c'est le mécanisme de suivi, en fait.
C'est le mécanisme de suivi qui est donc de la responsabilité du président lui-même. Donald Trump a clairement fait savoir qu'il ratifiait 2 fois d'ores et déjà, mais contre sa volonté, qu'il essayait de ménager d'autres personnes, d'autres personnalités au sein de son administration également, parce qu'il a un secrétaire d'État, un ministre des Affaires étrangères, Rex Tillerson, qui lui, en appelle à l'Iran, c'est-à-dire tente d'engager un dialogue avec l'Iran, ce qui n'est pas du tout la politique de la Maison-Blanche actuellement, et en appelant à ce que l'Iran respecte une politique qu'il qualifie de bon voisinage. Et dans l'histoire des États-Unis, ça a un sens, cette politique de bon voisinage. C'est une politique des années 30 entre les États-Unis et l'Amérique latine, c'est-à-dire une politique de désescalade, une politique d'ouverture et de dialogue avec les partenaires régionaux. Et donc, il semble, parce qu'on a toujours un petit peu du mal à savoir ce qui se passe au département d'État actuellement, où un certain nombre de postes ne sont toujours pas pourvus, mais il semble que le chef du département d'État, en tout cas, ait en tête de faire tomber des barrières qui se sont érigées très très brutalement, rompant tout dialogue, isolant l'Iran dans la région. Je pense que l'un des déclencheurs des sanctions américaines renouvelées actuellement, c'est l'Arabie Saoudite. C'est le voyage de Donald Trump, du président Trump, en Arabie Saoudite, où clairement il a donné des gages qui ont donné l'impression à l'Arabie Saoudite qu'il pouvait dans le même temps durcir encore leur conflit ouvert par procuration au Yémen contre l'Iran, et dans le même temps isoler le Qatar. Et on est dans un triangle ici, où l'Iran immédiatement, quand le Qatar est isolé par l'Arabie Saoudite et ses alliés, l'Iran envoie une aide alimentaire pour contourner l'embargo de l'Arabie Saoudite vers le Qatar. Donc on est dans une tentative de la part de Téhéran de dialoguer avec certains de ses voisins, effectivement, pas nécessairement chiites. Et dans le même temps, on a un Rex Tillerson à Washington qui, en tant que chef de la diplomatie américaine, appelle à cette politique de bon voisinage que Téhéran semble mettre en place, et dans le même temps une Maison-Blanche qui tient un autre discours, celui des durs, celui des faucons du Congrès américain, qui est une politique plutôt non seulement d'endiguement de l'Iran, évidemment de toute expansion, de toute prolifération nucléaire, mais aussi de toute prolifération balistique. Excusez-moi de vous emmener à l'autre bout de la Terre, mais évidemment, il y a un même ciblage Corée du Nord-Iran. On ne peut pas tenir un discours d'un côté et tenir le discours inverse de l'autre. Mais avec donc des différentes politiques plus en continuité sans doute avec la présidence d'Obama au département d'État actuellement, et en rupture totale, en ligne de continuité avec le Congrès républicain qu'Obama a connu à la Maison-Blanche. Qui va gagner au final? Le suspense court toujours ce soir.
Alors effectivement, des lignes politiques assez concurrentes au sein de la Maison-Blanche dans les rapports avec l'Iran. Thierry Coville, comment est-ce que vous expliquez le retour de la ligne dure contre l'Iran? Enfin, déjà, c'est peut-être une question à poser. Est-ce que c'est vraiment le retour de la ligne dure? Est-ce que l'épisode Obama n'aura été finalement qu'une exception? Et là, on est quelque part en train de retourner à la normale, entre guillemets, c'est-à-dire à la situation qui prévaut depuis 1979, depuis la crise entre les deux pays, et que business as usual.
Oui, c'est une bonne question. Déjà, je voulais revenir. Je pense, Rex Tillerson, je crois qu'il a fait une déclaration en disant qu'il voulait un changement de régime pacifique en Iran. Donc,
en Corée du Nord.
Non, c'était, enfin, je vous assure, c'est pour l'Iran. Donc, Je comprends qu'il
est... Après avoir récusé ce que Mike Pompeo, chef de la CIA, appelait comme changement de régime pacifique en Corée du Nord.
J'ai lu cette déclaration, donc je comprends qu'il est peut-être pas sur la même ligne que Trump pour l'accord sur le nucléaire, mais il y a quand même un discours. D'ailleurs, ce qui donne du grain à moudre au dur du régime iranien, qui Khamenei, il n'arrête pas de le répéter en disant. Et c'est un gros discours actuellement en Iran, c'est-à-dire la politique de composer avec le reste du monde. Je crois qu'il l'a dit dans son discours d'investiture, il dit voilà, on parle avec tout le monde, et puis le guide ou les durs rappellent tout le monde, sauf les États-Unis et Israël, parce que de toute façon, les États-Unis, dans toutes leurs tentatives d'engager des négociations, In fine, qu'est-ce qu'ils veulent? Un changement de régime en Iran. Donc ce type de déclaration, il faudra vérifier, mais si vous voulez, donc, il y a une méfiance instinctive chez les durs en Iran que, bon, ils sont gentils, mais en fait, cette politique du sourire, derrière, il y a des ambitions régionales, et c'est parce qu'on leur résiste, et je ne pense pas qu'ils aient complètement tort. La question historique est importante, parce qu'avec Trump, si vous voulez, on a tellement de déclarations à l'emporte-pièce tous les jours, on oublie tout le contexte historique. Donc effectivement, c'est quand même quelque part ahurissant, parce que moi, bon, je ne sais pas si c'est un... Je suis pour rien, je suis l'Iran depuis un moment déjà. Donc je me rappelle, au moment où Obama, même avant qu'Obama arrive, tous les articles ont été publiés aux États-Unis, cette politique de diabolisation de l'Iran ne marche pas. La politique des sanctions ne marche pas. La politique de changement de régime ne marche pas. Ça renforce les durs en Iran. L'Iran est un acteur central. Alors là, il y a des tonnes et des tonnes d'analyses là-dessus en Iran.
Alors justement, donc, comment est-ce que vous expliquez qu'on revienne à cette politique?
Et on a vu que c'était très risqué, parce que après l'attaque de l'Irak, le gouvernement américain voulait sans doute attaquer l'Iran. Pendant la crise du nucléaire, il y avait quand même des déclarations régulières d'Israël en disant qu'ils allaient régler le problème par une attaque, etc. Et donc, je pense qu'Obama, franchement, alors moi, c'est pas une question de lui tresser de faire des louanges, mais disons, je pense qu'Obama a fait preuve d'énormément de courage politique pour s'engager dans cette politique de dialogue avec l'Iran. Et je me rappelle très bien, moi j'étais aux États-Unis en 2008, même à la primaire démocrate, qu'est-ce que Hillary Clinton n'a pas dit sur cette naïveté d'Obama? Et je pense, alors ça n'a pas été simple, mais il a fait preuve d'énormément de courage politique, parce que l'idée, je me rappelle très bien, il a fait des discours du genre, ok, on a des griefs contre l'autre. Et voilà, du côté iranien, il y a ce fameux coup d'État de 1953 qui a effectivement mis à mal une démocratie et qui a donné aux Iraniens une dictature et qui a sans doute, qui est une des explications de la révolution de 1979. C'est quand même pas rien pour l'Iran. Il y a le soutien fantastique quand même des Américains à Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak. Il y a le fait qu'ils ont rien dit quand l'Irak a utilisé quand même les armes chimiques contre les Iraniens. À l'époque, ça ne dérangeait pas trop. Si vous voulez, il y a quand même toute une politique d'opposition, etc. Du côté américain, effectivement, il y a l'affaire des otages, il y a le soutien, ce qu'ils appellent au terrorisme, etc., etc. Donc les deux pays ont des griefs. Et Obama, et John Kerry ont fait preuve de beaucoup, beaucoup de courage. Et je pense que s'ils n'avaient pas été là, c'est pas les Français qui ont réussi l'accord nucléaire. C'est les Iraniens, c'est Zarif, Rouhani, Obama, Kerry. Et donc, il y avait beaucoup de courage. Alors, et Obama l'a bien dit dans plein d'interviews, c'est pas pour ça que tous les problèmes vont être réglés. Mais disons, c'est une première pierre. Je veux dire, et l'idée c'était, si vous voulez, et ça c'est aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des débats similaires en Iran et aux États-Unis. En Iran, il y a un débat, les réalistes ou les réformateurs disent, voilà, ce qu'on a fait sur le nucléaire, ce qu'ils appellent Barjom, on pourrait le faire sur d'autres sujets. C'est ça la grande question. Parce que l'idée de négocier avec l'Iran, ce qu'a prouvé, parce que moi, bon, je suis effectivement l'Iran sur un moment, on nous racontait, et à moi on me l'a dit quelquefois, de toute façon les Iraniens, on peut pas leur faire confiance. Ben, on peut négocier avec les Iraniens, on peut arriver à des résultats. Pourquoi on ne pourrait pas arriver à des résultats avec les Iraniens sans leur faire de cadeaux sur la Syrie, sur l'Irak, etc. Donc c'est le grand débat. Est-ce qu'on va négocier avec les Iraniens? Mais c'est vrai qu'il y a des oppositions, excusez-moi, à ça en Iran et aux États-Unis.
Alors pour revenir un instant, vous disiez une politique étrangère d'un côté comme de l'autre qui finalement, si je vous comprends bien, serait davantage basée sur une accumulation de griefs historiques d'année en année. Amélie Myriam Chély, votre avis sur cette question? Vous vouliez réagir de toute façon.
Oui, expliquer qu'en fait, déjà sur place, en Iran, pendant la campagne américaine, ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait une phrase qui circulait assez régulièrement, c'était que Hillary Clinton, c'était l'Amérique maquillée, et Donald Trump, c'était l'Amérique démaquillée. Donc en fait, dans un cas comme dans l'autre, ils pensaient que de toute façon, ça ne faisait pas une très grande différence que l'un ou l'autre soit élu. Et toujours sur cette question de savoir si, c'est la fameuse question qu'on se pose énormément en Occident, il me semble, si le conflit entre l'Iran et les États-Unis va faire en sorte de redonner plus de force aux conservateurs, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de penser ou qui peuvent nous pousser à penser le contraire. J'aimerais juste revenir sur ce qui s'est passé suite à la prise de sanctions le 1er août dernier. On a eu le vice-ministre des Affaires étrangères, Averti, qui a annoncé donc qu'il y allait avoir une prise de 16 mesures contre l'action des États-Unis. Le Parlement a annoncé le vote prochain d'une loi renforçant le programme balistique. Mais au-delà de ça, on a aussi mis en évidence le fait que les...
Ah, j'ai l'impression qu'on vous a perdu, Amélie Myriam Chélu. On va tenter de vous rappeler, mais justement la question qu'elle était en train d'aborder sur la réaction de l'Iran aux sanctions américaines, donc c'est qui a dénoncé une violation. Quelle est exactement la portée de cette dénonciation, c'est-à-dire au-delà des cris d'orfraie quelque part sur la scène diplomatique, est-ce que l'Iran peut vraiment se permettre aujourd'hui de sortir de l'accord sur le nucléaire? Est-ce que l'Iran n'a pas plus à perdre à faire capoter l'accord que les Occidentaux? Qui veut répondre, Annick Cizel?
Je ne suis pas sûre que l'Iran souhaite faire capoter l'accord, mais par contre faire entendre une voix, effectivement, que le monde global dans lequel nous vivons lui permet de faire entendre. C'est-à-dire qu'on est peut-être en train de vivre un renversement de polarité assez surprenant, où c'est l'Iran qui en appelle aux Nations Unies, c'est l'Iran qui en appelle au système multilatéral de la Pax Americana, comme on l'appelle, de 1945, qui en appelle au système que les États-Unis eux-mêmes ont mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour que soit respecté cet accord multilatéral à partir du moment où eux le respectent. Et où ce sont les États-Unis qui sont en train d'unilatéraliser leur position, de dénoncer donc, de se retirer, plus ou moins en tout cas sur cet accord-là, du système qu'ils ont eux-mêmes fondé, avec une forme donc de renversement des polarités, de renversement du leadership multilatéral. Ça n'est pas, l'Iran n'est pas le seul exemple qu'on pourrait citer ici, mais on vit sans doute un moment réellement historique où ce retrait des États-Unis, qui n'est pas un isolationnisme, qui est vraiment une forme d'unilatéralisme, de repli sur soi, mais d'intervention ponctuelle, quand on estime que la sécurité nationale des États-Unis prime, avec une absolue priorité qui est la lutte contre le terrorisme et contre toutes les formes de terrorisme. Cette espèce de vision en tunnel que l'administration Trump est en train de proposer, de cet unilatéralisme dur, donne une opportunité à l'Iran, à la Chine, à des pays émergents, à la fois économiquement peut-être pour l'Iran maintenant que l'Union européenne et d'autres pays investissent massivement et contribuent à mondialiser l'économie iranienne, mais permettent politiquement, ce qui est peut-être encore plus important, que d'autres voix se fassent entendre, pas simplement les voix présente, mais pas trop audible jusqu'à présent, des autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU, mais pas simplement les voix économiques du G20, mais que véritablement la situation politique mondiale puisse se négocier aujourd'hui avec des voix audibles. Et la présence de Federica Mogherini, pas comme représentant certes de la diplomatie européenne, comme chef de file de l'accord et du respect de l'accord nucléaire, sa présence à l'investiture d'Hassan Rouhani était fondamentale pour cela, c'est-à-dire reconnaissant l'Iran comme un acteur global qui pèse aujourd'hui, qui a la capacité de peser dans les décisions politiques multilatérales. Et là, c'est véritablement un moment historique. Si les États-Unis ne durcissent pas au point que tout cet équilibre fragile s'effondre effectivement d'ici au mois d'octobre et d'ici à une possible non-ratification par le président américain en octobre prochain.
Amélie Myriam Chélu, on a retrouvé la ligne avec vous pour que vous puissiez reprendre les explications que vous donniez sur la manière dont les Iraniens ont réagi aux sanctions américaines et les implications que cela a eues sur la politique intérieure en Iran. Et puis je voulais aussi vous faire réagir sur ce que disait Annick Cizel à l'instant, en quoi la présence de la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini en Iran pour l'investiture de Hassan Rouhani, est-ce qu'elle a eu un impact fort en Iran?
Eh bien justement, je pense qu'en fait, ça va être deux réponses en une, parce que ce que j'essayais d'expliquer, c'est que il ne faut pas envisager, enfin du moins sur place, c'est ce que beaucoup pensent, il ne faut pas envisager le conflit entre les États-Unis et l'Iran comme une volonté de retour à une situation d'avant la signature des accords. Et je me permettais de rappeler que le vice-ministre des Affaires étrangères à Lorchi avait parlé d'une entrée dans une nouvelle étape. Ça n'a l'air de rien, cette formulation, ou alors ça peut avoir l'air de tout, on peut y ranger beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en Iran, on pense que c'est avant tout le fait de chercher une sorte de continuité dans la politique d'ouverture qui a été initiée par Gourani, mais par d'autres moyens. En d'autres termes, d'après ce que dit le vice-ministre des Affaires étrangères, on cherche une continuité de l'ouverture, mais pas par d'autres moyens que la recherche des sympathies américaines. Donc effectivement, la présence d'une représentante européenne sur place est extrêmement importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 19 mai, jour à la fois des élections présidentielles en Iran, premier et unique tour. Mais jour aussi où le président Trump a choisi comme premier voyage à l'étranger officiel, alors qu'en règle générale, on opte plus pour le Mexique ou le Canada, eh bien, il a choisi de se rendre en Arabie Saoudite, puis ensuite de faire un discours devant 54 représentants de pays musulmans. Depuis ce jour-là, l'Iran a décidé de plus encore s'orienter vers l'Europe. C'est-à-dire qu'on sait que les relations sont excellentes avec la Russie, enfin, sont plutôt bonnes avec la Russie et avec la Chine. Mais en termes d'ouverture commerciale, d'ouverture financière, l'Iran a véritablement envie d'Europe. On voit que, par exemple, il y a deux banques françaises, européennes, qui n'ont pas d'intérêt aux États-Unis, qui peuvent faire des transactions avec l'euro, qui commencent à avoir de plus en plus de poids sur place. De plus en plus, les industriels européens essaient de contourner ces fameuses mesures coercitives qui sont prises par les États-Unis de sorte à empêcher l'accès au système bancaire international pour l'Iran. Donc c'est une véritable, réorientation de cette continuité vers l'Europe et non pas une volonté de retour en arrière et à un conservatisme qu'on a connu auparavant.
France Culture, du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon.
L'Iran et les États-Unis sont-ils redevenus les meilleurs ennemis? C'est la discussion que nous avons ce soir jusqu'à 19h avec Annick Cizel, Amélie Myriam Chély et Thierry Coville. Thierry Coville, sur cette question de l'Europe, est-ce qu'un regain de tension entre les États-Unis et l'Iran, finalement, c'est pas un peu une chance pour l'Europe qui, elle, va pouvoir maintenir des relations peut-être plus resserrées avec l'Iran et notamment au niveau économique?
Oui, alors justement, avant de répondre à cette question, je voulais simplement rappeler que je vois mal le gouvernement iranien revenir sur l'accord sur le nucléaire, justement à cause des retombées économiques de cet accord. Ce qu'il faut quand même rappeler, et ça c'est des faits, hein, c'est pas seulement des spéculations, un certain nombre de sanctions bilatérales européennes, américaines et multilatérales des Nations Unies ont été levées suite à l'accord, et maintenant l'Iran peut exporter 100% de son pétrole. Il faut savoir que les recettes pétrolières en Iran, c'est 50% des recettes budgétaires et à peu près 80% des exportations. D'autre part, l'Iran maintenant peut commercer avec le reste du monde, notamment avec les Européens, donc il y a un certain nombre d'investissements étrangers. Donc tout ça mécaniquement explique que la croissance en Iran a atteint à peu près, je crois d'après le FMI, 6% en 2016. L'économie, c'est un enjeu, c'est en doute l'enjeu principal du deuxième mandat de Rouhani. C'est pour ça que là où il a le plus changé, mis des nouveaux ministres, c'est tous les aspects économiques. Et pourquoi? Parce qu'il y a un problème de chômage en Iran. On pense le chômage notamment des jeunes diplômés. Il y a 600 000 nouveaux diplômés, master, doctorat en Iran chaque année. Le niveau d'éducation est très élevé, mais les jeunes ne trouvent pas de boulot, donc ils se retrouvent à faire du marché dans l'économie parallèle, ou bien à partir éventuellement en Turquie, puis aller aux États-Unis. Donc ça, c'est une catastrophe. C'est à la limite le problème principal de l'Iran. Et donc, il a intérêt à maintenir, on va dire, la dynamique actuelle et l'amplifier pour avoir une croissance plus élevée et réduire le problème du chômage en Iran. Donc, c'est pas le moment de sortir de l'accord. Par contre, ce qu'ils veulent dire, je pense que c'est ça, c'est avoir une diplomatie active. Et c'est là où je pense qu'il faut peut-être rappeler un petit peu l'histoire. C'est pas nouveau. Je veux dire, les Européens, c'est très intéressant de voir à quel point la politique étrangère de l'Europe, hein, je me rappelle de Javier Solana, qui avait ce poste de coordinateur de la politique étrangère européenne, a joué un rôle très important au début des années 2000 dans les négociations sur le nucléaire iranien. Donc c'est très très intéressant de voir un moment où les Américains disaient c'était la diabolisation de l'Iran, alors là même l'Iran dans l'axe du mal, etc. Et c'est les Européens, faut s'en rappeler quand même, en 2003, qui ont sauvé la mise, je pense, qui ont évité une guerre, hein, avec Dominique de Villepin, Jack Straus et Joachim Fischer, qui sont allés en Iran et qui ont commencé, qui ont obtenu un accord pour que l'Iran arrête d'enrichir l'uranium. Hein. Donc ce triangle avec les Européens qui discutaient avec les Iraniens, les Américains qui dépoussaient en disant de toute façon ça ne va pas marcher, et puis une fois qu'il y a eu cet accord, les Américains ont tout fait pour le saboter. Hein, c'est pour ça, en partie, à cause des obstacles américains à accorder un certain nombre d'avantages économiques à l'Iran, notamment l'Iran voulait acheter des Airbus, et comme les Airbus sont fabriqués en partie aux États-Unis, les Américains ont mis leur veto, etc. Et donc, cette rivalité entre les Européens et les Américains sur les Iraniens, c'est pas nouveau. Donc, la situation actuelle, effectivement, l'Europe en profite, mais je pense qu'il faut pas voir si vous voulez, je pense que les Iraniens sont d'abord de grands pragmatiques. Et si vous voulez, ils ont un mode de raisonnement très flexible. Ils défendent, c'est un pays d'abord avant tout nationaliste. Donc ils défendent avant tout leurs intérêts. Chez eux et dans la région. Le reste, ça les intéresse pas. Donc, à la limite, ils voient qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Trump et que c'est, mais je pense qu'on sait aussi que les entreprises pétrolières américaines, éventuellement des entreprises d'automobiles américaines, négocient avec les Iraniens depuis 2 ou 3 ans. Bon, on me l'a dit, donc on le sait. Mais actuellement, effectivement, pour obtenir des investissements étrangers, c'est plutôt du côté européen. Donc, ils sont avant tout pragmatiques. C'est vrai, les Iraniens, c'est les champions du monde. Ils reçoivent un pays, et puis les Français s'y font malheureusement un peu prendre. Ah, les Iraniens, cette fameuse amitié franco-iranienne qui existe depuis 50 ans. Bon, ils font la même chose avec les Italiens, avec les Espagnols. Éventuellement, ils font la même chose avec les Américains. Donc, ils veulent des investissements étrangers et ils en ont besoin. Parce que Rouhani, pour créer ses emplois, il a dit 50 milliards de dollars d'investissement. Il n'y a que 5 milliards. Mais par contre, là, il y a un vrai problème. Je voudrais revenir sur ce qui se passe. Les Américains continuent à peser sur l'ouverture du marché iranien parce que les sanctions américaines, cette politique d'embargo financier qui a été mise en place contre l'Iran, qui a fait actuellement qu'effectivement, il y a des petites banques françaises qui travaillent avec l'Iran. Mais ça ne suffit pas. Les grandes banques européennes refusent de travailler avec l'Iran. Elles ont été traumatisées par l'affaire BNP Paribas. Et tant que ces grandes banques européennes ne reviendront pas sur le marché iranien, je vois mal comment l'Iran arrivera à attirer ces fameux 50 milliards de dollars d'investissement.
Annick Cizel, du côté américain, et toujours pour rester sur le terrain économique, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que par idéologie ou par souci de tenir une ligne diplomatique dure envers l'Iran, les États-Unis seraient prêts à, quelque part, sacrifier le marché iranien et à le laisser aux Européens? Je rappelais hier que l'entreprise Renault, mais c'est un exemple parmi d'autres, a signé un accord, plus de 660 millions d'euros d'investissement, les États-Unis sont prêts à sacrifier ce marché-là?
C'est extrêmement paradoxal. Vous mettez exactement le doigt là où je ne comprends plus du tout ce qui se passe chez Donald Trump, parce que j'avais cru comprendre que ce qu'il voulait, c'était faire du business et qu'il aimait signer des contrats. Or, c'est la raison principale pour laquelle Barack Obama a rouvert les relations diplomatiques avec Cuba. Et les Républicains sont en train actuellement de refermer petit à petit un certain nombre de relations avec Cuba. Et dans le même temps, on pourrait penser que ça n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de laisser l'Union européenne, sans doute aussi le Canada, leurs partenaires commerciaux premiers, négocier des entrées de marché comme ça aussi à long terme, aussi potentiellement à long terme, en Iran. C'est peut-être l'espoir que j'ai qu'au-delà de la rhétorique de Donald Trump, qui va rester une rhétorique guerrière parce qu'il est comme ça, il est punchy, c'est son style, il va continuer à envoyer des tweets anti-iraniens. Mais c'est peut-être ce qui est en train de se négocier effectivement avec cette administration qui parle d'une autre voie, à la fois pour désescalader la situation générale au Moyen-Orient. Parce que l'Iran, c'est une puissance présente contre l'Arabie Saoudite au Yémen, mais c'est aussi l'allié russe, le premier allié russe en Syrie. Et que si les États-Unis escaladent la situation diplomatique avec l'Iran jusqu'au point de rupture, je vois mal comment on négocie quelque sortie de crise que ce soit en Syrie après ça. Les Iraniens dialoguent énormément aussi avec les Kurdes irakiens. Donc, les États-Unis ont besoin...
Excusez-moi, ils sont aussi très présents en Afghanistan, par exemple.
Et ils sont très présents en Afghanistan également. Donc, au-delà de la rhétorique trêve à temps guerre du président Trump, il semble que l'administration ait parfaitement compris l'imbrication de ces différents terrains d'opération pour l'armée américaine et qu'une désescalade soit nécessaire. Et je doute fort qu'il y ait beaucoup de naïfs dans le monde commercial autour de Donald Trump. Et je reste assez optimiste, malgré les discours extrêmement durs qui font de l'Iran un bouc émissaire, un ciment national à l'intérieur des États-Unis. On a besoin d'un ennemi aux États-Unis. Éternellement, c'est l'histoire des États-Unis. Toute la guerre froide s'est fondée comme ça. On a besoin d'un ennemi sur lequel polariser tous les mots MAUX du monde. L'Iran fait office dans une rhétorique. Mais j'espère effectivement que les intérêts bien compris, ce pragmatisme, à la fois pragmatisme et nationalisme, je regarde Thierry Coville en disant ça, parce qu'il y a des deux côtés, à Téhéran et à Washington, une combinaison de pragmatisme et de nationalisme où leurs intérêts bien compris, peuvent converger. Donc au nom de cette réalpolitik, il est possible qu'au final, au mois d'octobre, le président des États-Unis traîne les pieds, mais continue à ratifier petit à petit, aussi pour se garder une marge de manœuvre sur les autres terrains de conflit au Moyen-Orient, avec peut-être un bémol qui est la négociation sur Israël, qui est jusqu'où Washington arrivera à négocier la baisse des tensions avec Téhéran, avec le régime de Benjamin Netanyahou en présence en place à Tel Aviv actuellement. C'est peut-être là que l'équilibre est vraiment difficile à trouver. Il est difficile à trouver avec Riyad et il est actuellement difficile à trouver avec Tel Aviv également.
Amélie Myriam Chély, sur cette question de la lutte quelque part entre les pragmatiques d'un côté comme de l'autre et puis les tenants de lignes peut-être plus idéologiques, comment est-ce que vous voyez les choses et est-ce que finalement les relations entre l'Iran et les États-Unis sont surtout déterminées par la personnalité quelque part des dirigeants d'un côté comme de l'autre, par exemple la présence d'Hassan Rouhani qu'on dit voilà modéré d'un côté va déterminer la nature de relation au même titre que l'arrivée de l'administration Trump va bouleverser tout ce qui avait été entrepris par Obama. À quel point tout cela ne tient finalement qu'à la personnalité ou les idées d'un homme, de deux hommes peut-être ?
Alors effectivement, la question est intéressante. D'abord parce qu'en règle générale, on a tendance à parler de contre-pouvoir d'un côté comme de l'autre. Là où moi je préfère parler de dissonance discursive, c'est-à-dire que effectivement quand vous voyez qu'il y a une dissonance de discours entre Trump et le Département d'État, eh bien on pourrait éventuellement faire la comparaison entre le gouvernement Rouhani et les gardiens de la Révolution par exemple. Je vous donne juste un tout petit exemple pour reprendre encore la question des attentats. Le jour où il y a eu les attentats, le jour même, les gardiens de la Révolution n'ont pas voulu faire la distinction entre Daesh et l'Arabie Saoudite. Ils ont immédiatement dit qu'ils allaient venger leur mort en intervenant et en punissant l'Arabie Saoudite. Le lendemain, Hassan Rouhani a expliqué qu'il fallait peser chacun de ses mots et que, tout simplement, il ne fallait incriminer que Daesh, et non pas aller chercher la main de l'Arabie Saoudite derrière. De l'autre côté, côté américain, si je me souviens bien, le Département d'État a présenté des condoléances et Donald Trump a aussi eu un mot pour les victimes, mais a quand même laissé passer le message selon lequel « qui sème le vent récolte la tempête ». En quelque sorte, c'était à peu près ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que du point de vue iranien, il s'agit de temps en temps de conflits de politique interne, certes, mais il faut savoir aussi que ces deux parties qui semblent assez régulièrement s'opposer savent aussi se prendre par la main quand il s'agit, et là je reprends les propos de Thierry Covid, quand il s'agit de défendre les intérêts nationaux. Voilà, c'est vraiment le principal. Alors effectivement, vous avez, à mon sens, Hassan Rouhani est le premier véritable politique, avec un turban certes, mais politique en Iran. C'est-à-dire qu'il sait parler le langage des négociations, il sait se faire entendre sur la scène internationale, c'est-à-dire qu'il arrive à se mettre à distance d'une rhétorique islamique qu'on connaît depuis 38 ans et qui est assez opaque quand il faut négocier, parler avec le reste du monde. Et en même temps, tout l'enjeu est de garder une identité politique, celle de la République islamique. Donc, je pense qu'on risque d'avoir une continuité et il me semble que rien de ce qui s'est passé jusqu'à présent ne puisse faire totalement obstacle à cette politique d'ouverture qui a été initiée. Il y a des contournements à faire, il y a des redirections à faire, des redéfinitions à engager, notamment vis-à-vis de l'Europe et pour beaucoup d'autres choses, mais il me semble que rien n'est incompatible.
Alors on arrive presque à la fin de cette émission, je voudrais vous faire, avant que cela se termine, écouter une archive de 2003, on est juste après le tremblement de terre de Bam dans le sud-est de l'Iran qui a fait des dizaines de milliers de morts, l'aide internationale afflue, y compris l'aide américaine.
Un convoi discret sur une route du sud de l'Iran, un des nombreux convois humanitaires qui filent vers Bam, la ville sinistrée. Pourtant, ce convoi n'est pas tout à fait comme les autres. Ces camions sont américains et leur seule présence en Iran est un événement. À bord, des pompiers et des médecins de Virginie devant une escorte iranienne des gardiens de la Révolution. Pas de plaque minéralogique, pas de drapeau. Il faut être discret, sécurité oblige. Ces premiers Américains qui débarquent en Iran ont pourtant commis une toute petite erreur. Leur camion et leur voiture General Motors, n'existe plus en Iran depuis 1979, date de la révolution islamique. Et du coup, tout le monde les remarque. C'est à la nuit tombée qu'ils arrivent vers Bam, et sous leurs yeux, des milliers de réfugiés sous les tentes. Et autour des feux de bois, des Iraniens qui ont du mal à y croire. Ici, personne n'a oublié la prise d'otage à l'ambassade américaine en 1979, l'opération militaire pour les secourir, un désastre pour le président Carter à l'époque. Mais les temps changent. C'est bien, dit Smolin. Cette aide est humanitaire et on ne doit pas parler de politique. Il n'y a aucun lien entre les problèmes politiques et les tremblements de terre. Si les Américains veulent nous aider, il n'y a pas de problème.
L'aide internationale en cas de gros problèmes humanitaires, est-ce que c'est la preuve que dans ce conflit irano-américain, Thierry Coville, tout cela se joue davantage au niveau des gouvernements qu'au niveau des peuples?
Oui, alors justement, moi j'ai pas de conseils à donner, je suis qu'un petit analyste à Paris, etc. Mais je voulais simplement faire deux remarques sur, parce que c'est un propos, c'est du côté américain, mais du côté européen, c'est comment prendre l'Iran de ça. C'est que je pense qu'il faut faire comme le nucléaire. Quels sont les intérêts de l'Iran sur un ensemble de dossiers? Parce que c'est pas, ils sont pas irrationnels. En Syrie, ils défendent des intérêts. Donc voilà, quand ils sont des politiques, on oublie toujours qu'il y a une rationalité iranienne. Quelle est leur rationalité et qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à un résultat? Et je pense qu'il faut arriver à ça. Et quand on les diabolise, et c'est là où ça devient problématique, parce que je lisais un article du New York Times, le journaliste vraiment d'une naïveté pas possible, où il faisait exprès, disant « Ah ben les Iraniens, ils sont méchants, ils aident maintenant les talibans. Ben, » si vous le dites qu'ils sont responsables de tous les problèmes dans la région, ils vont vous montrer qu'ils peuvent vous embêter pour montrer leur pouvoir. Il n'y a rien de plus logique. Donc comprendre quels sont leurs intérêts. Mais en Afghanistan, rappelez-vous, en 2002, ils ont quand même donné les plans des bases des talibans aux Américains avant l'attaque. Et ils ont bien aidé l'armée américaine, parce que c'était leur intérêt. Deuxième élément. Alors là, il y a une vieille croyance américaine, mais aussi un peu occidentale. On va s'allier avec les bons en Iran pour affaiblir les méchants. Il faut prendre l'Iran comme un, et ça a été dit aussi par notre ami, c'est un système complexe, un système. C'est une logique. Il y a des radicaux, il y a des modérés, mais ces gens vont être capables de s'entendre quand c'est leur intérêt. Et c'est catastrophique, on le sait, hein, l'histoire nous montre ça, quand on essaye d'entrer en relation avec les gentils, soi-disant les gentils iraniens, pour affaiblir les méchants, les résultats sont toujours catastrophiques. Donc, hein, je vous donne un exemple, je lisais un journal iranien, Soleimani, vous savez, le responsable des Pasdaran, il défendait l'international, et Mohammad Javad Zarif, ils étaient sur le même plan. Donc pour les Iraniens, il n'y a pas des bons et des méchants, il y a ceux qui défendent les intérêts nationaux ou pas. Donc il faudrait que tout ça rentre un petit peu dans la tête des diplomates.
Eh bien merci beaucoup pour cette conclusion et puis merci surtout à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Annick Cizel, Thierry Coville et Amélie Myriam Chély. Les références, les ouvrages, les liens, les infos, mais aussi la réécoute de cette émission et de toutes les autres. C'est comme toujours sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Philippine Lebray, Juliette Montilly, Isulte Sicard, Pierre Testard et Cédric Fuentes. Réalisation Romain Masson. Prise de son ce soir, Pierrick Monsigny. Droit d'auteur, Victor Buton.